Il est 4h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. 6h30 à Paris et à Khartoum. Et le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence évidemment avec ce triste anniversaire au Soudan où la guerre entre aujourd'hui dans sa troisième année.
Et pour comprendre l'horreur qu'elle a provoquée, il suffit d'imaginer les 13 millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer, selon les chiffres des Nations Unies. Et quand la diplomatie est inefficace pour arrêter la guerre, le monde se donne tout de même rendez-vous aujourd'hui à Londres pour répondre à la crise humanitaire, l'une des pires que connaît actuellement notre planète. On en parlera aussi après le journal avec notre invité, Abdourahouf Nyongkondé, directeur régional du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis RFI vous propose aussi une édition spéciale à partir de 6h10 en temps universel, la radio du monde est mobilisée. Nous serons ensuite dans l'est de la RDC où les armes s'expriment toujours également, où la MONUSCO, la mission de l'ONU, nie d'ailleurs être impliquée dans de récentes attaques contre la FCM-23. Un pas en avant, peut-être deux en arrière, à peine le réchauffement amorcé entre la France et l'Algérie. Un nouveau dossier ravive les tensions, on décryptera ensemble. Comment éviter les conséquences des revirements américains? Comment s'assurer que l'Afrique soit à l'abri des guerres et commerciales extérieures? Notre dossier Afrique Éco tout à l'heure, car certains experts appellent de leur vœu un véritable développement pour la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale. L'actu sport et l'humour de Maman vous attendent également, comme tous les jours. Vous êtes les bienvenus sur RFI. 2 ans après le début d'une guerre fratricide au Soudan, 1 an après un rendez-vous similaire à Paris, le monde se donne rendez-vous aujourd'hui à Londres, conférence co-organisée par la Grande-Bretagne, donc avec la France, l'Allemagne, l'Union européenne. Seront également présents les États-Unis et plusieurs voisins du Soudan, ainsi que l'Union africaine, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, ou bien encore la Ligue arabe. Autant de participants pour tenter de répondre à ce qui est donc aujourd'hui la plus grande crise humanitaire au monde, Ouda Ibrahim. Oui, mais cela sans les principaux intéressés.
Comme l'année dernière, les belligérants au Soudan ne sont pas non plus conviés à Londres, ce qui a fait réagir le ministre soudanais des Affaires étrangères qui a protesté une nouvelle fois contre le fait de mettre sur un pied d'égalité l'État soudanais et les paramilitaires. Le ministre a également critiqué l'invitation à cette conférence des parties prenantes dans la guerre, comme le Tchad et les Émirats arabes unis. En plus de ces deux pays, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, tout comme la Suisse, le Canada et la Norvège participent à cette conférence. Il est important que ces pays, dont certains sont impliqués dans le conflit, soient autour de la table, affirme une source diplomatique. Les 4 chefs de la diplomatie des pays co-organisateurs ouvriront la conférence à 11h. Les discussions auront lieu ensuite à huis clos. Il y sera question de remobiliser la communauté internationale autour du Soudan, de la protection de civils et de réactiver l'acheminement de l'aide humanitaire, d'affirmer à nouveau qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit.
Une guerre au Soudan, Ouda Ibrahim, dont l'intensité ne faiblit pourtant pas sur le terrain. Après 2 ans de combat, ce week-end encore, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti ont revendiqué la prise du gigantesque camp de réfugiés de Zamzam au Darfour Nord. Un camp que 400 000 personnes ont donc dû fuir, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dans le même temps, dans la région occidentale du Darfour, les FSR auraient tué la semaine passée pas moins de 400 personnes, selon des sources citées par les Nations Unies. Réaction ici manifeste au revers enregistré dernièrement face à l'armée du général Al-Bourhan dans la capitale Khartoum principalement, mais aussi dans d'autres villes et villages reconquis plus au nord. Raison pour laquelle certains des quelques 4 millions de Soudanais qui avaient fui le pays souhaitent aujourd'hui rentrer. Ils sont des centaines, notamment à la frontière avec l'Égypte, de longues files d'attente dans une région désertique sans eau ni nourriture. Des volontaires sont donc venus de la localité de Wadi Alpha pour les aider. Parmi eux, il y a Odey Mohamed qui a accepté de témoigner ce matin sur RFI.
Tous les jours depuis le 6 avril, il y a près de 2500 personnes qui traversent le point de passage frontalier dans le sens du retour. Entre le 6 et le 9 avril, plus de 5000 personnes ont traversé le passage d'Arkin. Parmi elles, des femmes, des enfants et des vieilles personnes malades. Ils rentrent dans des régions qui sont pratiquement sécurisées et désormais contrôlées par l'armée après les affrontements qu'elles ont connus. Nous avons été surpris par le nombre de personnes qui rentrent. Arkin est sur le chemin du désert. Il n'y a pas d'infrastructure, ni de services, ni même d'habitants. Nous sommes venus, dès le début, nous les volontaires, de la localité de Wadi Alpha. C'est situé à l'extrême nord du pays, près de la frontière. Nous sommes venus pour secourir les passagers qui rentrent d'Égypte et pour répondre à leurs besoins. Ils sont obligés d'attendre durant de très longues heures avant de pouvoir traverser. Nous leur offrons à manger et de l'eau potable.
Odaï Mohamed, qui est donc venu porter son aide à la frontière entre le Soudan et l'Égypte, une guerre soudanaise qui a également des conséquences régionales. On a vu notamment des tensions émerger entre le gouvernement soudanais et son voisin tchadien, accusé de soutenir les paramilitaires FSR. Des tensions qui s'inviteraient même d'ailleurs dans l'appareil d'État tchadien. En effet, ce week-end, l'un des plus hauts gradés de l'armée tchadienne, Abdelrahim Bahar Mahamat Itno, proche parent du président Mahamat Idriss Déby, s'est vu dégradé au bas de l'échelon militaire et même radié de l'armée pour faute grave, sans plus de détails. Mais un message vocal du général diffusé dans un groupe WhatsApp a finalement fuité. On entendait l'officier qualifier le pouvoir tchadien de corrompu. Esdras Dikoumana, il appelait les membres de sa famille à le renverser.
Le sociologue Gondé Ladibar rappelle que c'est le troisième ou quatrième général appartenant au noyau central des Itno à subir les foudres de Mahamat Idriss Déby Itno après l'avoir défié publiquement. Mais au-delà, la dégradation de son cousin Bahar Itno du plus haut grade de l'armée, général 5 étoiles au plus bas soldat de deuxième classe avant sa radiation, est une preuve supplémentaire de la crise qui couvre au sein du clan qui dirigeait le pays du temps de Déby Itno père. Condé Ladiba.
Ils sont écartés, ils n'ont plus d'influence qu'ils avaient. Il y a certains secteurs économiques, là, notamment le transport, tout ce qui est orpaillage. Il y a eu une redistribution des cartes. Du coup, leur pouvoir économique aussi a baissé. Tout ça, ça crée des mécontentements.
Et pour le chercheur Laurent Marchal, c'est également un message de fermeté envoyé aux membres des forces de défense et de sécurité qui seraient tentés, comme un petit nombre l'a déjà fait, de rallier le camp du général soudanais Bourhan sur un réflexe communautaire. Déjà il y a quelques jours, il a sorti un décret qui prévoit la radiation et la perte de nationalité dans un tel cas, selon le chercheur.
Je pense que le président Mahamat Kaka a affirmé sa volonté de maintenir un contrôle de plus en plus marqué de son armée, et notamment d'éviter le transfert de certaines de ses troupes du Tchad au Darfour. Donc on voit que cette politique-là est mise en œuvre, y compris, et je crois que c'est à dessein, vis-à-vis d'officiers qui sont dans la famille Itno, pour montrer qu'ils ne plaisantent pas.
La tension au sein de l'armée tchadienne va être de plus en plus forte avec le durcissement de la guerre au Darfour, prévient Laurent Marchal.
Esdras Dikoumana, une guerre au Soudan qui déteint ainsi jusqu'au Tchad. Un conflit auquel on accorde une large partie de notre antenne ce matin, vous l'avez compris. On continuera d'en parler après ce journal.
RFI à Goma, 98 FM.
L'Est de la RDC à présent, où la guerre continue également. Et la tension est d'ailleurs à nouveau montée d'un cran ces derniers jours. Situation qui a contraint la MONUSCO à réagir, tout comme les forces de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique Australe. Elle dément être responsable des récentes attaques qui ont frappé Goma et l'aéroport de Kavumu, près de Bukavu, ainsi que d'autres localités dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. En revanche, l'ONU confirme avoir accueilli des soldats congolais et certains sont encore dans ces bases à l'heure actuelle, Passion Ligodi.
Ces militaires ont tous été désarmés avant d'être intégrés dans la base de la mission onusienne. Nombre d'entre eux sont arrivés sans pièce d'identité, ce qui complique leur identification selon plusieurs sources. Le processus repose souvent sur leur parole et sur des vérifications auprès des FRDC. Les homonymies et l'usage de surnoms rendent cette identification encore plus complexe. Sur le plan logistique, la MONUSCO leur assure quotidiennement la nourriture et le couvert, mais l'absence des données de base complique le suivi. D'après nos informations, ces militaires étaient environ 3000 sous la protection de la MONUSCO. Cependant, il en resterait désormais environ 1200. Mais où sont passés les autres? Du côté des FRDC, on rejette les accusations selon lesquelles ces militaires rejoindraient les Wazalendo. Mais les FCM-23 persistent à dire qu'ils ont été libérés pour se joindre à eux. Le terme « libéré » est contesté par les sources onusiennes qui précisent que ces militaires n'étaient pas en détention. Ils sont partis, disent ces sources, de leur propre gré après avoir signé un document expliquant leur départ. Selon les sources onusiennes, ces militaires ne sont pas armés lors de leur sortie. Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'aucun suivi n'est effectué une fois qu'ils quittent la base de l'ONU.
Patient Ligodi, un enlèvement signalé au Niger, celui d'une Suisso-Nigérienne kidnappée dimanche soir à Agadez dans le Nord. Enlèvement confirmé hier par le gouverneur de la région. Le ministère suisse des Affaires étrangères indique que des clarifications sont en cours avec les autorités locales. C'est la deuxième fois qu'une Européenne est enlevée ainsi à Agadez depuis le début de l'année. Le Niger, où le ministre nigérian des Affaires étrangères est attendu demain, mercredi, de sources diplomatiques. Youssouf Maïta Matouga, reporter d'un message du président Bola Tinubu à Abdourahman Tiani. C'est la première visite officielle de ce niveau depuis le coup d'État qui a renversé le président Bazoum en juillet 2023. La France et le Maroc qui renforcent leur coopération en matière migratoire, annonce hier lors d'une visite du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est entretenu avec son homologue à l'occasion d'un voyage express de 24 heures. Et pendant ce temps, nouvelle tension en revanche entre Paris et Alger. L'Algérie qui assume dans un communiqué sa décision souveraine d'expulser 12 fonctionnaires français. Cette décision fait suite à l'arrestation de 3 ressortissants algériens mis en examen vendredi à Paris. L'un d'eux est employé d'un des consulats d'Algérie en France. C'est un coup dur pour la reprise du dialogue, c'est certain, selon Hasni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Mais pour lui, tout n'est pas perdu pour autant.
Au-delà de la nature de la réponse algérienne, cette dernière, elle fait partie de l'ADN de la diplomatie algérienne qui n'a jamais supporté le fait de subir le fait accompli de la part des autorités françaises et notamment du ministère de l'Intérieur. L'Algérie a toujours brillé en matière de réciprocité et la sanction régulièrement dépasse la réponse à une action. Les Algériens s'interrogent, bien sûr, pourquoi finalement cette affaire a attendu un an. On est vraiment dans une affaire très grave. Et on sait que la police judiciaire, donc, qui a entamé cette arrestation, dépend plutôt du ministère de l'Intérieur. L'issue de cette nouvelle dégradation dépend de la réponse plutôt du ministère des Affaires étrangères des deux États et aussi de la réaction des deux présidents de la République. Moi, je pense qu'il est encore temps pour sauver cette relation.
L'analyse d'Asni Abidi sur RFI, 6h bientôt 42, ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
RFI Matin vous attend avec Andréane Mellard dans un peu plus de 12 minutes. Mais avant cela, le Soudan qui entre donc dans sa troisième année de guerre civile aujourd'hui. RFI braque les projecteurs sur ce qui est clairement l'une des pires crises humanitaires au monde. Elle a provoqué le déplacement de près de 13 millions de personnes. Plusieurs rendez-vous ce matin dans quelques minutes. La suite de notre série de reportages à la rencontre des exilés. Nous serons à Nairobi, la capitale kényane. Notre invité, Abdourahouf Nyokonde, directeur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et puis, notre édition spécial à ne pas manquer avec Arnaud Pontus à 8h10, heure de Paris. On parlera économie également dans quelques minutes sur RFI comme tous les jours, avec ce qui pourrait être un moyen pour l'Afrique de ne pas subir les variations des droits de douane américains. La zone de libre-échange continental, la ZLECAF, certains experts appellent à son renforcement, vous l'entendrez. L'humour de Maman aussi bien sûr, mais d'abord c'est Antoine Grenier qui nous a rejoint pour les sports. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Et du foot avec vous. Le début des quarts de finale retour de la Ligue des Champions.
Avec le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Aston Villa, des Parisiens forts de leur avance confortable de 2 buts après la victoire 3-1 du match aller. Et le PSG reste ambitieux à l'image d'Ousmane Dembélé.
C'est ce qu'on s'est dit, on n'est pas venu ici surtout pour spéculer. Voilà, on est venu pour gagner encore un match et on va pas changer notre jeu. On se dit pas de défendre ou voilà de garder le score. Je m'attends à une équipe de Villa qui va venir nous presser énormément. Et avec 2 buts de moins, ils sont obligés de venir nous presser ou attaquer encore plus. Et on va essayer de jouer notre jeu jusqu'au bout. Et on est venu ici pour gagner, c'est ce qu'on va faire.
Ousmane Dembélé avec Cédric De Oliveira, Aston Villa, Paris Saint-Germain, match à suivre sur RFI, soirée spéciale du service des sports à partir de 19h temps universel. Dans le même temps, le Borussia Dortmund recevra le FC Barcelone.
Et le rendez-vous est pris, on va pas manquer ça bien sûr. En Centrafrique, Antoine, la crise du foot s'accentue.
Le conflit entre la fédération et le ministère de la jeunesse et des sports concernant l'identité du sélectionneur dure maintenant depuis 4 mois avec désormais la menace d'une suspension de la sélection A pendant 3 ans pour mauvais résultats. C'est en tout cas l'objet d'une note adressée au Conseil des ministres le 1er avril dernier. Rolf Stef Domialeux, les médiations se poursuivent pour trouver une solution.
Alors que la publication de ce document a suscité une vague de réactions dans le pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Éric Tshiedoneng, a apporté des éclaircissements. Nous constatons tous que malgré les fonds alloués par le gouvernement, les résultats obtenus par la sélection A de football nous éloignent de plus en plus de la qualification à la Coupe du Monde 2026, a-t-il expliqué. Pour mieux préparer les générations futures, le ministre suggère au gouvernement d'orienter les financements vers le développement du football national, du sport scolaire, des infrastructures sportives, sportifs et de mieux encadrer les équipes U17 et U20 pendant une période de 3 ans. Ce lundi, Héritier Doneng a rencontré les responsables de toutes les fédérations sportives pour discuter des avantages et inconvénients du désengagement de la sélection centrafricaine. Célestin Yanindi est président de la fédération.
Si aujourd'hui on venait à suspendre la République centrafricaine, ça veut dire que 2 éditions, nous ne pourrions y participer. Nous allons envisager la possibilité avec la FIFA, en concertation avec le comité olympique, de financer les 2 fenêtres à venir.
Pour échapper aux sanctions de la FIFA et à l'isolement sur la scène internationale, la société civile demande l'annulation de cette note. Le ministre des Sports présentera son rapport lors du prochain conseil des ministres et le gouvernement prendra la décision finale dans les prochains jours. Rolf Esteve Domiale, Bongui, RFI.
Sur le terrain, Antoine, la CAN U17 dispute ses demi-finales.
À 16h, temps universel, le Burkina Faso qui reste sur une démonstration face à la Zambie, affronte un Mali qui était allé jusqu'au tir au but contre la Tunisie en quart de finale. L'autre demi mettra aux prises le pays organisateur, l'ambitieux Maroc et la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi 19h, temps universel.
Le rendez-vous est pris également, on suivra tout ça sur RFI. Merci Antoine Grenier, on vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
Et d'ici là, 4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce mardi 15 avril 2025. Et le Hamas qui dit examiner une proposition israélienne de trêve dans la bande de Gaza transmise par les médiateurs égyptiens. La proposition prévoirait la libération de la moitié des otages la première semaine en échange d'un cessez-le-feu d'au moins 45 jours ainsi que l'entrée d'aide dans le territoire palestinien. Pour mettre définitivement fin à la guerre qui dure depuis 18 mois, Israël exige le désarmement du Hamas et de tous les groupes armés palestiniens à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères qui se rendra cette semaine à Moscou pour aborder la question des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Iraniens et Américains sont convenus de poursuivre les pourparlers le 19 avril sous médiation omanaise. L'administration Trump qui a lancé hier une première étape vers la mise en place des droits de douane sur la pharmacie et les semi-conducteurs. Le ministère américain du Commerce a ouvert une enquête visant à déterminer si la prépondérance des importations dans ces deux secteurs présente un risque ou non pour la sécurité nationale. Et nulle autre crise ne provoque actuellement davantage de déplacements de population. Prenons un instant pour imaginer l'ampleur des chiffres communiqués par l'ONU face à la guerre qui déchire le Soudan depuis 2 ans aujourd'hui. Pas moins de 13 millions de personnes ont dû fuir leur foyer, près de 4 millions d'entre elles hors des frontières du Soudan pour trouver refuge au Tchad notamment, où nous avons débuté hier une série de reportages exceptionnels sur le sort des exilés soudanais. D'autres, eux, tentent de refaire leur vie au Kenya, où nous retrouvons ce matin Gaël Lalex pour poursuivre à Nairobi notre périple aux côtés des Soudanais.
Dans le quartier de Kilimani, le Raïta est devenu le rendez-vous de la jeunesse soudanaise. Dans ce petit restaurant pas de manière, on y mange comme à la maison. Ahmed Al-Badawi, son fondateur.
Nos clients sont des Soudanais, des Somaliens et des Éthiopiens.
Votre restaurant, c'est une sorte de refuge alors ?
Oui, quelque chose comme ça, mais on n'aime pas les appeler des réfugiés.
Quand on a fui la guerre, c'est important de reconstruire quelque chose.
Bien sûr, notre vie est finie au Soudan avec cette guerre. Il faut tout recommencer pour survivre.
Est-ce qu'après la guerre, vous seriez prêt à être gouverné par un des deux généraux ?
Non. Pendant la révolution, on disait... À chaque fois, nous referons la révolution si le gouvernement n'est pas bon pour nous.
Les généraux Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée soudanaise, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, chef des forces de soutien rapide, se mènent une guerre sans pitié depuis 2 ans. Mabio Swaleh, 24 ans, a fui Khartoum dès les premiers bombardements.
J'ai laissé derrière moi mon père, mes petits frères, même ma mère. Je ne sais pas comment ils vont, s'ils sont en sécurité. La vie au Soudan est très dure. Il n'y a pas de travail, pas de sécurité. On entend les armes et les balles partout.
Ici, au Kenya, est-ce que vous avez pu vous recréer une vie ?
J'aimerais bien. Là, je travaille comme serveur. Avant, je rêvais d'être footballeur. Aujourd'hui, je veux juste continuer à travailler pour envoyer de l'argent à ma famille.
Ousmane aussi a quitté Khartoum en 2023. Il y suivait alors des études en génie civil. Diplômé ici à Nairobi, c'est vers le Soudan que ses projets se tournent.
Je ne peux pas imaginer mon futur sans le Soudan. Maintenant que l'armée a récupéré Khartoum, mes amis et des membres de ma famille y retournent. Ils essaient de reconstruire. J'y retournerai, c'est sûr.
Vous avez eu une révolution, tout ça pour ça.
Les deux généraux viennent du même gouvernement, mais vous pouvez vivre avec l'armée. Avec les RSF, c'est impossible. Je le sais, je les ai vus, ils ont essayé de me tuer. D'abord la paix, après on cherchera la démocratie.
En 2024, les Nations Unies recensaient plus de 11 500 réfugiés soudanais au Kenya. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le deuxième épisode de notre série de reportages à la rencontre des exilés soudanais. Nous étions au Kenya. Épisode à retrouver sur Internet, bien sûr, comme le volet d'hier au Tchad. Et demain, c'est au Soudan du Sud que nous irons. Et pour l'heure, on continue de parler de cette crise soudanaise. 2 ans aujourd'hui après le début de la guerre, avec l'invité de la rédaction Afrique, Abdourahouf Gnoukonde, directeur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le HCR qui documente évidemment cette situation soudanaise et qui s'en alerte. Abdourahouf Gnoukonde est au micro de Léa Lisa Vesterov.
Abdourahouf Gnoukonde, bonjour.
Bonjour.
2 ans après le début du conflit au Soudan, la violence a encore franchi un cap ce week-end au Darfour avec l'attaque et la prise du camp de déplacés de Zamzam. 13 millions de personnes déplacées de force à l'intérieur du pays comme au-delà des frontières. En tant que directeur régional du Haut Commissariat aux réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, comment est-ce que vous qualifiez cette crise ?
D'abord, c'est de dire que c'est une crise humanitaire aiguë. C'est la pire crise humanitaire au monde après Gaza. Mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Et je pense que justement, à 2 ans du rappel du début de cette crise, c'est important que vous puissiez nous donner cette opportunité de souligner les conséquences de cette crise et d'appeler les uns les autres à réellement trouver une solution politique à l'intérieur du Soudan.
Vous rentrez du Tchad, où vous êtes rendu la semaine dernière. Ce pays frontalier joue un rôle particulier dans la guerre civile. Quelles répercussions la guerre civile a-t-elle sur le Tchad ?
Une des conséquences immédiates, c'est que les populations, elles vont chercher un lieu de refuge. Et le lieu de refuge le plus près pour certaines d'entre elles, c'est le Tchad. Et on a pu voir des populations qui continuent d'arriver. Et certaines viennent même depuis Khartoum. Et qui ont traversé donc des conditions vraiment difficiles. Et depuis avril 2023, le Tchad a déjà reçu près de 800 000 nouveaux réfugiés soudanais. Et malheureusement, nous nous attendons avec ces attaques à davantage d'arrivées. Donc vous voyez, pour un pays fragile comme le Tchad, avec une population de 17 millions d'habitants, c'est extrêmement lourd.
Abdourahouf Gnoukonde, merci.
Léa Lisa Vesterov avec le directeur régional du HCR. Entretien à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes vers 7h45 heure de Paris. Et puis je vous rappelle bien sûr rapidement notre édition spéciale consacrée à cette guerre soudanaise qui entre dans sa 3e année. Vous serez tout à l'heure avec Arnaud Pontus à partir de 8h10 heure de Paris, 6h10 en temps universel. Pour le moment, il est 6h52 ici dans le studio 32 de la Radio du Monde et on a rendez-vous avec l'économie africaine et ses questions. Comment atténuer sur le continent africain la hausse des droits de douane promise puis suspendue par les États-Unis ? Comment se prémunir des changements américains ? Eh bien, certains plaident ici pour un renforcement de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Un vieux serpent de mer qui existe depuis 4 ans maintenant, mais qui peine à véritablement monter en puissance. Pourtant, le commerce intra-africain a rebondi l'an dernier de 8% pour atteindre 208 milliards de dollars. Mais les pays du continent ne commercent entre eux qu'à hauteur de 15% de leurs échanges. Pas de quoi se passer des États-Unis, donc Claire Fage.
La ZLECAF est encore loin d'être un marché de substitution pour les produits africains surtaxés par les États-Unis. Sur la 50aine de pays africains signataires de l'accord de libre-échange continental, seuls 8 l'ont réellement mis en œuvre, observe Benjamin Alam Neminda, chercheur en droit international à l'Université Lyon 3, et sur une poignée de produits qui seront à terme débarrassés de taxes.
Vous avez le Cameroun qui a commencé à lancer une cargaison de thé, vous avez le Kenya avec des piles, vous aviez le Rwanda avec le café instantané, vous avez le Ghana, l'Afrique du Sud avec quelques produits manufacturés. Ils ne sont pas encore nombreux. Cette volonté, elle est toujours conditionnée, si vous voulez, à la capacité des pays à se spécialiser sur des chaînes de valeur utiles aussi pour les autres pays africains. Je pense qu'on peut là se dire à l'horizon 2030-2040, ça peut commencer à fonctionner.
Les obstacles, en particulier l'insuffisance des infrastructures, ne doivent pourtant pas empêcher de tirer profit de la ZLECAF dès aujourd'hui. Juge Honoré Mondo Mobé, il est enseignant à l'université de Douala.
On ne va pas attendre que toutes les routes en Afrique soient asphaltées. On ne va pas attendre que tous les pays aient le meilleur système de communication pour que la zone de libre-échange se mette en place. À chaque étape, il faut en profiter. Actuellement, le Cameroun exporte des lingots d'aluminium vers l'Algérie avec un taux de douane qui va s'annuler au bout de 10 ans. Pourquoi voudrez-vous que les pays exportent vers les États-Unis? La zone de libre-échange continentale est plus importante aujourd'hui que jamais.
La zone de libre-échange interafricaine pourrait aussi, selon lui, être un outil d'indépendance vis-à-vis des États-Unis qui achètent finalement moins de marchandises à l'Afrique qu'ils ne lui vendent actuellement de services.
Ça se retrouve au niveau bancaire, au niveau des services d'ingénierie, dans le secteur pétrolier et dans le secteur minier. Si les Africains décident de ne plus importer des services des États-Unis, c'est une perte de plus de 125 milliards de dollars pour les États-Unis. D'où la nécessité de mettre en place le protocole numéro 2 de la zone de libre-échange continentale qui permettrait aux Africains d'échanger les services intra-africains sans contingentement.
Une autonomie atteignable en 5 ans, affirme l'expert camerounais, l'Afrique pourrait aussi faire davantage appel aux services indiens ou européens.
Claire Fage pour Afrique Éco sur RFI. Allez, dans un peu plus de 4 minutes, on retrouvera Andréane Mellard pour RFI Matin. Mais d'abord, on prend le temps de rire un peu, c'est important. Maman, bien sûr, qui nous parle du bas qui blesse ce matin, à savoir l'argent, évidemment. Car selon vous, Maman, le Gondouanais lambda ne voit pas ce qu'on fait des impôts qu'il paye.
Oui, aujourd'hui, un peu partout autour du globe, les citoyens lambda ont l'impression de vivre dans la Matrix ou la guerre des étoiles. Ils ont l'impression de se débattre dans et contre un système qui les malaxe, les avale, les digère et les recrache pour mieux recommencer encore et encore. Mais du coup, les gens sont énervés contre ce système et sa manifestation la plus concrète. L'argent, les impôts, les taxes, quoi? Des taxes, en veux-tu, en voilà! Des taxes à tous les coins de rue, des taxes à chaque couleur de l'immense bâtiment du ministère des finances et des bonnes affaires de la très très démocratique république. Ben oui, Gondouanais lambda, tu travailles jour et nuit, tu cravaches toute l'année, tu turbines toute ta vie pour un salaire rikiki afin de t'acheter le droit de vivre, dormir sous un toit, manger, t'habiller, te déplacer, te soigner, faire des enfants, les élever et garantir leur avenir. Taxe foncière, taxe à la valeur ajoutée, taxe de séjour, taxe de voirie, taxe audiovisuelle, taxe postale, taxe de péage, taxe du pain, taxe d'importation et j'en passe, et des taxes dans tous les textes de la loi des finances. Des taxes qui te désaxent, te tordent, appuient de toutes les forces sur ta tête, pèsent sur tes épaules jusqu'à te faire avancer. L'échine courbée, toujours plus courbée, tu as genoux mon ami, pire tu rampes. À cause des taxes qui normalement, logiquement, sont là pour te garantir un environnement sûr, propice à ton épanouissement et celui de ta famille, eh ben tu rampes. Mais alors, entre-temps, qu'est-il arrivé aux taxes? À quel moment se sont-elles égarées sur le chemin? À quel moment les taxes gouvernementales sont-elles devenues les taxes du quartier, tu sais, comme quand un ami, toujours le même, te demande « Excuse-moi, je peux te taxer une cigarette ?» On en connaît tous, ce genre d'amis qui te taxent tout le temps sur tout. On a nous-mêmes été ce genre de gars un jour. Ouais oui, il nous arrive encore de l'être. Hein. Ben oui, parce que ton salaire est en retard, tu te retrouves à taxer ton entourage de quelques billets pour payer le loyer, mettre un peu de carburant dans la mobilette, payer les frais d'inscription de ta dernière, compléter sur la facture d'eau et d'électricité. Bref, comme tu es provisoirement un peu fauché, ben tu taxes ton entourage. Ben oui, c'est tes frères, cousins, sœurs, amis, voisins, ils acceptent de très bon cœur que tu les taxes puisque c'est ton entourage, ils te connaissent très bien. Ils savent que tu es un bon gars, un bon père de famille. Ils savent ce que tu feras de l'argent que tu l'auras taxé. Et surtout, ils voient ce que tu en fais. C'est ça le problème de l'État avec ses taxes. Dès qu'il a besoin d'argent, hop, taxe, impôt. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait avec tout cet argent qu'il t'a taxé et surtout, tu ne le vois pas. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, rien de rien. Du coup, mais tu ne veux plus qu'il te taxe comme tu refuses de prêter à ton ami qui te taxe au quartier. Hein. Mais le problème avec l'État, c'est que quand il veut te taxer, ben il te demande pas ton avis. Hein. Il se sert directement dans ta poche. À demain.
À demain, Maman. On vous retrouve du lundi au jeudi sur la Radio du Monde. Merci à Pauline Berthélémy qui était à la réalisation de cette Afrique Matin. Édouard Dupénoat à la rédaction en chef. Mais surtout, merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité. On passe un salut tout particulier d'ailleurs ce matin à Obero Kitumaini qui nous écoute depuis Kavumu et l'île d'Ijiwi au sud Kivu. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Restez avec nous, tout de suite c'est RFI Matin qui débute avec Andréane Mellard. Bonjour Andréane. Eh bien, ce sera dans 30 secondes. Andréane Mélard n'est manifestement pas prête, mais restez là, bien sûr. La Radio du Monde qui est mobilisée notamment ce matin pour vous faire vivre les 2 ans de cette guerre au Soudan. Andréane Mélard, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Ça y est, on est là, on est prêt. RFI Matin, comment c'est ce matin, édition spéciale sur RFI, 2 ans après le déclenchement de la guerre au Soudan. Dans 30 secondes, on y revient déjà dans le journal de Léa Boutin-Rivière. Merci de nous écouter, merci d'être là.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
Le Parlement européen a-t-il tiré les leçons du Qatar Gate ? 2 ans et demi après le retentissant scandale de corruption, c'est le chinois Huawei qui est soupçonné d'avoir soudoyé des parlementaires. Une série de mesures avait été annoncée pour lutter contre ces pratiques, mais leur application tarde à venir.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.